Bien, merci beaucoup pour cet accueil et puis pour les amis de la vie de me donner la parole et de me permettre d'arriver un peu en bout de course après avoir pu entendre tout ce que vous avez échangé entre vous, à table, un peu partout, et puis les conférences que vous avez reçues, les témoignages. Et vous allez voir que je ne fais que reprendre à ma manière beaucoup, beaucoup de choses que vous avez entendues et que vous savez déjà. Parce que le travail du théologien, en fait, ça n'est pas tellement d'inventer des nouvelles choses, mais plutôt de faire un peu une soupe à sa manière. Mais on a les mêmes ingrédients. On travaille toujours avec les mêmes outils, la sociologie, l'écriture, la tradition. Mais il y a peut-être une manière, voilà, j'ai fait ma soupe et elle a donné un certain goût. Mais je ne dis jamais que ce que vous avez déjà entendu cette semaine et que vous savez. Alors, on m'a demandé de parler de cette notion de modèles qui nous sont imposés. Et moi, j'ai rajouté d'étiquettes, parce que vous avez remarqué, le mot étiquette est revenu beaucoup de fois cette semaine. Ces étiquettes qu'on nous colle, qu'on colle et qui nous habitent. Le premier à en être la victime, c'est Dieu. Déjà, on lui a collé un nom. Pour ceux qui s'amusent à lire de la théologie, vous pouvez voir dans le traité fondamental de Rahner, je vous déconseille, c'est très compliqué, mais sa première méditation, sa première partie, c'est tout un travail sur le mot Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une étiquette pour dire l'indicible. Donc nous sommes habités par des modèles, par des étiquettes, et que nous le voulions ou non, par exemple, vous êtes des modèles pour la génération qui vient. Voilà, les lecteurs de la vie sont un modèle de chrétiens. Vous êtes une génération qui a fait modèle. Une forme d'exemplarité. Mais attention, dans le concept de modèle, il y a aussi l'aspect scientifique où on va modéliser des systèmes pour que ça marche. Il y a donc un rapport aussi d'efficacité derrière. Et quand on parle de modèle, on parle d'une institution ou d'une norme, d'un canon. Il y a le canon des Écritures, il y a le canon esthétique des top modèles et il y a le canon des bons croyants. C'est pareil. Mais ça veut dire qu'il y a un processus contextuel qu'il faut respecter, qui fait en sorte qu'à un moment donné, eh bien, nous sommes habités par des modèles familiaux, sociaux, politiques, etc. Et en catholicisme, et je me situe vraiment en théologie catholique, nous avons des modèles. Des modèles qu'il faut accueillir, mais qui doivent bouger à un certain moment et qui posent problème. Voilà. Qui posent problème lorsque le contexte change et que ces modèles cassent la relation, abîment la relation. Alors pour traiter de cette question, je prendrai à peu près 4 parties. Une petite partie qui vous explique un peu la genèse de ma problématique, de mon travail. Une autre partie un peu historique pour voir comment la notion de pratiquant a émergé. La notion de pratiquant, c'est un vocabulaire strictement sociologique, scientifique dans la sociologie. Et comment la notion de pratiquant est venue remplacer petit à petit la notion de fidèle qui, elle, est une notion canonique qui définit le baptisé. Voilà. Donc il faut comprendre comment petit à petit il y a eu cette installation de ce vocabulaire chez nous tous. Et puis dans une deuxième partie, puisqu'il faut parler de pratiquant, alors oui, on va honorer très sérieusement cette notion-là dans l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer Jésus ? Alors allons-y franco. Et puis la dernière partie, ça sera plutôt théologique, en théologie fondamentale, avec ce qu'on appelle le tournant anthropologique qui s'est passé au début du XXe siècle, où il n'est plus pensable de penser la foi en termes de niveau. Alors, vous verrez que ça croise quand même les propos du pasteur Collange, mais en théologie catholique, aujourd'hui, on va plutôt parler de greffe, de socle, et non plus de niveau, parce que le niveau induit une hiérarchie, qu'on le veuille ou non. Et du coup, on ne sort pas trop de la problématique. Voilà le programme. Donc, moi, je suis ignatienne, je suis mère de 4 enfants, maintenant je suis grand-mère, je viens plutôt d'un milieu pas, normalement catholique. Je ne suis pas du tout, du tout biberonnée à l'aumônerie ni au scout et tout ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas du tout vécu là-dedans. Mais j'ai fait des études donc, de commerce, de gestion. Et puis, un jour, j'ai commencé à faire du catéchisme quand mes enfants ont un peu grandi. Et puis, un ami jésuite m'a dit, tiens, t'es en congé maternité, est-ce que ça t'intéresserait pas de faire un peu de pastoral? C'était au Mans, aux Amis de Sainte-Croix. Et puis, je me suis passionnée pour la théologie. Et quand on s'est installé à Paris, j'ai commencé donc à faire un baccalauréat canonique à la Cato de Paris. Et puis, mon second cycle, ce qui est une licence canonique, un master, au Centre Sèvres, chez les jésuites. Voilà. Et au fur et à mesure de mon travail en pastoral, donc quand on est arrivé à Paris, j'ai continué. J'étais à Meudon, Notre-Dame de Meudon. Les oiseaux, c'est des institutions sérieuses. Quand on fait de la pastorale à Meudon, on gère le nombre et la qualité. On a 80 enfants qui font la confirmation par an. Je sais pas, une centaine de petits cinquièmes qui font la profession de foi, plein de baptêmes. Vous voyez, on est dans le côté ouest de Paris où ça continue. Et pourtant, je me suis rendu compte que nous avions, avec mes animateurs et animatrices, toujours un sentiment de frustration. Nous n'étions jamais contents. Ça n'était jamais suffisant en termes de qualité. Et je me suis rendu compte que la sociologie que j'étudiais, moi, Jean-François Barbier-Brouvet, je lisais Jean-Marie Donegani, Yann Raison du Clesiou, tous ces gens-là, je les lisais, j'étais en train de faire de la théologie ignatienne, accompagnatrice spirituelle, plutôt baignée dans l'esprit Vatican II. Je me suis rendu compte que les outils de la sociologie, le vocabulaire de la sociologie, étaient devenus non seulement une aide pour penser la réalité, mais surtout étaient devenus une arme contre ces personnes. C'est-à-dire que grâce au vocabulaire de la sociologie, j'étais capable de dire « Non, quand même, cette famille-là, elle n'a pas vraiment la foi. Hein. C'est quand même un peu du catholicisme social. Hein. C'est des pratiquants, c'est des intermittents, c'est du folklore qu'ils viennent chercher. » Et je me suis rendu compte que j'étais devenue comme ça. J'étais devenue comme ça, et pour ceux qui font de la pastorale du seuil, et j'en rencontre beaucoup, on sait combien c'est difficile d'accueillir des demandes de baptême par des gens qui nous disent « Ouais, je veux le baptême, mais alors, moi, je ne crois pas en Dieu. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire la fête. » Ou de ces jeunes couples qui veulent se marier dans telle belle église avec tel prêtre qui est vachement sympa, mais franchement, on ne voit pas le sens de la démarche. C'est vrai, moi, j'ai vécu ça. De m'agacer et même de me mettre en colère des fois contre ces types d'attitudes et de me dire mais qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas très longtemps cet été, un brave curé, mais vraiment quelqu'un de bien, me disait moi des fois je refuse de faire proposer de marier telle personne parce qu'on ne peut pas donner des perles aux pourceaux. Ça existe. Et ça existe d'être très agacé quand on arrive à la messe de Noël et quand l'église est pleine avec tous ces gens qui viennent jamais. Mais je le reconnais. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais à quoi je joue ? Qu'est-ce qui se passe ? J'étais en second cycle. Et donc j'ai voulu comprendre comment j'avais été gangrénée. Non pas par la sociologie. Les sociologues le disent bien, ils ne sont pas théologiens, même s'ils connaissent la théologie. Mais j'ai bien vu comment j'avais été infestée par une manière de juger mes contemporains et de m'autoriser à juger de la qualité de la foi des personnes. Et j'ai voulu comprendre comment c'était arrivé. Alors la parole de Dieu m'a beaucoup aidée pour ça, parce que je commençais à avoir des doutes, je m'entendais parler. Et quand j'accompagnais des accompagnateurs dans les périodes de supervision, j'entendais bien ces gens qui disaient « Oh non, mais vraiment, là, quelle foi profonde !» Et je me dis « Mais comment on sait que la foi est profonde ? À quoi on joue ?»« Ah non, mais il faut donner la foi à ces gens. » »« Mais on ne donne pas la foi. » Et j'étais mal à l'aise, parce que mes études de théologie commençaient à me poser vraiment des problèmes. Et puis un jour, à une réunion pour préparation au baptême, on a médité avec les parents qui étaient là. Alors, bien sûr, l'agenda avec le truc du traiteur et tout. Ouais. Et puis, on a médité sur l'acte 6, la rencontre de Philippe et de l'Éthiopien. Et à la fin, l'Éthiopien, il dit, qu'est-ce qui empêche que je reçoive ce baptême? D'abord, il aurait pu dire, ah ouais, chouette, je voudrais recevoir ce baptême. Non, il dit, qu'est-ce qui empêche? Ben, Philippe, il peut empêcher. S'il estime que le bonhomme, il n'a pas eu une catéchèse assez sérieuse, qu'il va repartir dans un pays où il sera tout seul, qu'il n'aura pas une communauté de base, etc., il peut dire non, pas de baptême, t'es pas prêt. D'autres textes, comme par exemple le baptême de Corneille, bah Pierre n'était pas du tout prêt à aller chez ce type impur, ce païen. Il a fallu une triple vision. Vous savez, ce texte, acte 10, ne rend pas impur ce que Dieu a rendu pur par trois fois. Mais Pierre, qu'as-tu fait pendant que tu étais avec Jésus? T'as bien entendu les discours sur l'impureté? T'es bien au courant qu'il n'y a rien d'impur? Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre, pour que l'Esprit Saint, par trois fois, vienne te taper dans la tête? Voilà, moi j'étais aussi dans ce processus-là. Et donc, j'ai repéré au fur et à mesure dans les évangiles qu'il y avait des processus d'empêchement. Jean le Baptiste ne veut pas baptiser Jésus dans l'évangile de Matthieu. Il dit non, non, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui dit, mais dis donc, tu vas m'empêcher, laisse donc faire. Et en fait, j'ai réalisé que le métier de Messie était un métier assez difficile. C'est vrai, hein, on croit que c'est facile pour Jésus, mais pas tant que ça en fait. Et les empêchements viennent des plus proches. Hein? Voilà, on connaît bien la première scène, hein? La scène inaugurale, l'évangile de Luc, hein, dans la synagogue de Nazareth, où il ne peut pas faire de miracle. Hein? Voilà. Voilà, donc en fait, je me suis intéressée aux non-pratiquants en me disant finalement, ces gens qui sont les laïcs, hein, parce qu'évidemment, ça ne concerne pas les clercs et les religieux. Parce qu'eux, ils sont hyper pratiquants, ils ne sont même pas dévots, ils sont au-dessus de tout. Hein, on en est bien d'accord, évidemment. Hein? Je me dis, mais finalement, je vais poser comme hypothèse que ces gens qui continuent à venir dans nos églises, c'est cette passion-là, moi. Ce n'est pas ceux qui ont totalement demandé la débaptisation ou autre. Hein, voilà. Moi, je me suis intéressée à ceux qui viennent encore nous déranger, entre guillemets. Ce qui nous pose problème, parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais qui continuent à demander le baptême, les funérailles, vous voyez, ceux qui gardent un lien. Je me suis dit, mais si on partait de l'hypothèse qu'au lieu de nous déranger, ils étaient une bonne nouvelle, simplement parce qu'ils sont baptisés. Non pas parce qu'on va les réévangéliser. La nouvelle évangélisation a en grande partie cette vocation, terre de mission, vous savez, les années 40, hein, terre de mission. Mais simplement parce qu'ils sont là et qu'ils continuent à se dire un peu chrétiens. Voilà, simplement parce qu'ils sont là et qu'ils sont baptisés. Si nous croyons à l'efficacité du baptême, comme nous le dit la théologie, alors nous ne devons pas croire que Dieu ne fait rien. Donc c'était mon hypothèse de travail. Autant vous dire que c'était compliqué à proposer. Un certain nombre d'amis jésuites, d'étudiants et tout, me disaient « Mais tu ne peux pas poser ça comme théologie, comme hypothèse de travail en théologie fondamentale. C'est un travail de sociologie éventuellement ou de théologie pastorale dans le cadre de la mission et de l'évangélisation, mais pas en théologie fondamentale. Non, ces gens-là n'ont pas la foi. Tu ne peux pas faire un travail sur ces gens-là. » Bien, donc je me suis un petit peu obstinée. Et donc je suis allée voir comment on en était arrivé à penser cette notion de pratiquant. Et donc j'ai été voir un petit peu dans l'histoire. Et donc de revenir un peu à la source, parce que finalement, que demande Jésus? D'abord, quand au tout début des évangiles, quand les disciples viennent le rechercher après à Capharnaüm, ils disent, non, il faut retourner à Capharnaüm, il y a plein de gens qui t'attendent à la fin de la journée inaugurale dans Marc. J'ai dit, non, mais je ne suis pas venu pour ça, moi. Je suis sorti pour annoncer la bonne nouvelle. ma vocation, c'est d'être témoin de la bonne nouvelle. Et lorsque, à la fin, le ressuscité revient, et la finale des évangiles, par trois fois, dans les trois grands récits que sont Marc, Luc et Jean, à chaque fois, il est question d'être témoin. Il n'y a que Matthieu, dans la seconde finale de Matthieu, qui parle, d'une manière d'ailleurs un peu problématique, d'aller dans les, par les nations faire des disciples. C'est 25% hein, des finales. Mais ces 25% sont devenus la doxa de la mission. Faire des disciples. Donc je me suis intéressée évidemment à se faire des disciples. Pourquoi faire des disciples plutôt que être témoin? Ça n'est pas la même chose. Et on va voir comment il y a des ruses dans l'histoire. Au temps apostolique, ce qu'on connaît à peu près jusqu'au début, milieu du deuxième siècle, hein, c'est très court les temps apostoliques, on parle de témoin, martyr, hein, en grec, hein, le martyr. Et la qualité de la foi est essentielle, et une foi personnelle. Voilà. D'où la question des hérésies, qu'est-ce que c'est qu'une vraie bonne foi. Mais c'est le témoin qui est vraiment le cœur, avec ce qu'on appelle le baptême de sang, qui est là pour le coup le martyr. Mais en même temps, alors là je vous renvoie à Alexandre Fèvre, qui est un historien qui a vraiment travaillé sur les débuts de l'Église et sur la notion de laïc et de peuple de Dieu. Il dit en fait, au fur et à mesure que Marie-France Basselès, hein, une historienne, voilà, il dit en fait, ça fonctionnait en réseau, l'Église. Il y a beaucoup de travaux contemporains en histoire de l'Église qui sont vraiment passionnants, hein, et qui nous font sortir des schèmes un peu classiques, d'abord que tout le monde était martyrisé, non ? Bien sûr, il y avait des martyrs, mais finalement pas tant que ça. Et puis, il y avait quand même des réseaux assez organisés autour de ce qu'on appelle les presbytres, qui étaient finalement les dinosaures, le squelette, la base de ce qui sera le presbytérium. Donc au sein des communautés, il y avait des hommes qui étaient sélectionnés pour organiser, etc. On voit ça un peu au début dans Acte 6. Vous savez, le livre des Actes, où il y a le problème des veuves grecques. Voilà. Et puis Pierre dit, bon, on va s'organiser, il y a l'institution des diacres. Et Pierre dit, nous les 12, on va se mettre en retrait pour se consacrer à la parole. Et puis il y aura les diacres qui arriveront. Et puis c'est là qu'on voit apparaître le peuple. Cette question des diacres pose vraiment, enfin moi me pose question. Voilà. Cette organisation, dans Acte 6, c'est déjà les prémices de la hiérarchie ecclésiale, avec cette notion de retrait pour se consacrer à la parole, ce que Jésus n'a jamais fait. Bref, on voit au fur et à mesure, très tôt, si on lit Clément d'Alexandrie, de Rome, etc., on voit les pères de l'Église, on voit qu'il y a cette notion de presbytre qui arrive, d'organisation autour de l'évêque, et que petit à petit, il va y avoir une association, dans les textes, on voit bien, entre presbytre et disciples. Et puis il y a les autres, qui ne sont pas encore appelés des laïcs, ça arrivera bien plus tard, mais on voit se scinder les communautés chrétiennes dès le IIe siècle, voilà, avec une forme de spécialisation, et puis une contre-réponse qui va arriver assez vite avec la vie monastique, qui est une manière pour des laïcs d'échapper au système presbytéral qui se met en place. Et puis, comme dit Jean-Baptiste Metz, il va y avoir une ruse de l'histoire où finalement les moines vont être récupérés par le système presbytéral et où la vocation religieuse va devenir un espèce de modèle et la vie monastique, ça c'est Daniel Hervieux-Léger l'analyse assez bien, hein, le monastère devient le prototype de la communauté chrétienne. Voilà, avec le père abbé, l'évêque, autour ses collaborateurs, les prêtres, et puis le peuple. Et il y a cette espèce de fond, là, qui continue à habiter la structure de l'Église. Sachant que les vrais combats, aujourd'hui encore, c'est entre Pierre et les 12. Les vrais combats, aujourd'hui, dans l'Église, ils sont au-dessus de nous, entre la curie et les évêques. Hein. C'est là-haut que ça se bagarre encore aujourd'hui. Voilà. Et alors, on va voir comment la vie monastique avec les conseils évangéliques deviennent la structure du vrai bon chrétien. Et donc, c'est les chapitres 5, 6, 7 de Matthieu avec les béatitudes. Hein. À la fin du chapitre 5, Jésus dit aux foules et aux disciples, aux foules et aux disciples, vous serez parfaits ou saints, ça dépend, parfaits comme votre Père est parfait. La perfection évangélique se met en place à la fin des béatitudes. Et une sorte de tradition, quand on est dans l'année, alors je ne sais pas quelle année on lit Matthieu, mais ce n'est pas cette année. Cette année, c'est Luc. Enfin bref, quand on lit au moment de la Toussaint, l'été, tout le passage sur les béatitudes, le lectionnaire dit toujours en début, parce que vous voyez, il y a les découpages, quand Jésus disait à ses disciples et aux foules. Mais les foules, c'est cette espèce d'objet invisible qu'on a tendance à dénigrer, parce que la foule, elle est bête, voilà, etc. Sauf qu'à la fin du chapitre 7 de ce fameux long discours sur la montagne, que dit l'auteur ? Les foules repartirent frappées par l'enseignement. C'est les foules qui repartent frappées par l'enseignement des béatitudes. Ça veut dire que la perfection évangélique, elle n'est pas réservée aux disciples. Elle est demandée à tout le monde, à chacun. Et c'est la perfection de Dieu qui est mise au cœur de la proposition. Sauf que ça, on l'a un petit peu oublié. Et donc, on va voir apparaître ce que Max Weber appelle la double éthique, hein, au fur et à mesure des siècles. Il va y avoir l'éthique ou la manière de faire de ce qu'on va appeler les virtuoses, et puis la voie commune. Donc les virtuoses, c'est ceux qui ont le courage de se retirer du monde, d'avoir une vie sans relations sexuelles, qui vont faire vœu de pauvreté, d'obéissance, voilà. Bon, au départ, c'est les religieux, mais petit à petit, ça va être aussi les clercs qui vont adopter cette voie d'élite. Et puis, à côté, la voie classique des autres. Des autres à qui on va demander, au fur et à mesure, de suivre cet idéal monastique, mais en sachant que ce n'est pas possible, puisque les autres, ils sont mariés, ils sont dans le monde, ils ne se consacrent pas à la parole, et donc ils ne peuvent pas, d'une manière ontologique, biologique, je dirais même, ils ne peuvent pas avoir la vie parfaite, parce que précisément, ils n'ont pas cette exigence de la ascèse monastique. Ils n'ont pas la vocation. Alors, on va voir que ça n'est pas simplement un avis de colère. Hein. On va voir que c'est canonique, c'est juridique dans l'Église. Et ça reste encore comme ça. Il y a eu la réforme grégorienne, bien sûr, et puis le fameux décret de Gratien en 1112, qui est le premier code de droit canonique. Alors, le décret de Gratien, alors, il faut voir qu'avant, les laïcs, c'était les rois laïcs, hein, avec, vous savez, les problèmes de pouvoir, de problèmes avec les évêques qui étaient nommés par les empereurs, par les papes, voilà, qui avait le pouvoir dans l'Église, on ne sait pas trop. Et à un moment donné, j'avoue que les évêques ont eu quand même une idée géniale. Ils vont dire, on va opter pour une loi de laïcité. Honnêtement, 1905 n'a pas inventé grand-chose, hein. La loi, le décret de Gratien dit, il y a trois catégories. Alors, c'est les catégories de la monarchie, hein, qu'on connaît. Il y a d'un côté les clercs et les religieux qui sont en dehors du monde, qui se consacrent à l'Église, et puis les autres qui sont dans le monde, les laïcs. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir véritablement une institution du peuple laïque, juridique. Et aux laïcs, on demande de s'occuper du monde. Voilà. Il faudra quand même attendre le quatrième concile du Latran en 1215, c'est-à-dire le XIIIe siècle, pour que enfin les laïcs puissent communier une fois par an minimum. Faire ses Pâques, ça date de 1215, parce qu'avant les laïcs ne communiaient pas du tout, ou au moment de la mort. C'est important de faire de l'histoire des sacrements, hein. Il a fallu un concile pour se dire, mais quand même, peut-être qu'ils pourraient de temps en temps communier, ces gens-là. Les prêtres ne communiaient pas non plus beaucoup. Au départ, c'était que les évêques. Hein. Voilà, il faut voir que ce qu'on imagine aujourd'hui de l'Eucharistie, c'est une invention extrêmement récente dans l'histoire de l'Église. Hein. C'est une invention récente. Alors, on saute l'étape et on arrive après les guerres napoléoniennes et puis début du XXe siècle, première guerre Louis de 14-18, la guerre 39-45, et puis donc là, vraiment la crise moderniste. Et là, les évêques de France vont avoir l'idée, parce qu'ils perdent complètement leur repère, ils ne savent plus très bien avec la crise, vous voyez, l'industrialisation. Moi, mes grands-parents qui étaient paysans dans l'Aubrac, ils ont migré à Paris. Et ils n'allaient plus à la messe à Paris, sauf quand il y avait un banquet des Auvergnats. Hein, ben oui. Et donc, ils allaient à la messe quand ils retournaient au pays pour aider faire les foins. Moi, je n'ai jamais vu mon grand-père aller à la messe en dehors des fêtes ou au pays. Mon grand-père et mes grands-parents sont devenus des non-pratiquants sans le savoir. Et c'est vrai que pendant l'époque de chrétienté, c'était assez facile d'être chrétien. Ça roulait, ça portait tout seul. Avec la modernité, il va falloir choisir. Et on va voir apparaître des mouvements, effectivement, d'action catholique qui vont encadrer l'action catholique rurale, du monde ouvrier, du milieu indépendant. Il va y avoir plein de mouvements qui vont venir soutenir le peuple laïque. Mais c'est récent. Hein ? C'est assez récent. Et donc, les évêques se disent, bon, voilà, on est embêtés, on ne sait plus très bien ce que c'est que l'Église. Là, ça bouge dans tous les sens. Donc, on va aller chercher des sociologues. Il y en a deux qui travaillent à cette époque. Alors, il y a effectivement France, Terre de Mission, qui vient d'être publiée. Et puis, il y a deux sociologues catholiques qui vont mener une immense enquête entre les années 40 et 70, à peu près. Voilà. Mais il y a 10 millions de catholiques qui vont être recensés. Ça va être, on va sortir la fameuse carte de Gabriel Lebras. Donc les deux sociologues, c'est Gabriel Lebras, qui était historien du droit, conseiller de l'épiscopat, et il était canoniste. Et puis Ferdinand Boulard, qui lui était prêtre, et qui se passionnait tous les deux pour la sociologie d'Émile Durkheim, Marcel Mauss, voilà, c'est toute cette époque. Et donc ils vont faire une immense enquête, et donc je fais une parenthèse sur le recensement. Voilà. C'est une culture de l'Église. Hein. Les premiers recensements des diocèses, on les retrouve à la fin des traces historiques, à la fin du Xe siècle. Mais Jésus est né dans un contexte politique problématique. Hein. Dans l'Évangile de Luc, on nous parle trois fois du fameux recensement. Et puis, vous savez, le roi David, il a péché. Hein, avec Bethsabée, on sait bien, mais le dernier péché de David, vous le connaissez ? C'est le recensement. Hein. Et le texte est fort, hein, parce que c'est à la fin du deuxième livre de Samuel. Dieu est en colère. Hein. Voilà. Il s'enflamme contre Israël. Et pour se venger, Dieu, le Seigneur, incite David à nuire au peuple. Il incite David, il lui tend un piège. Va, dit le Seigneur, dénombre Israël et Juda. Dénombre Israël et Juda. Alors le chef des armées, Joab, dit au roi, à David, mais t'es fou, ne fais pas ça. Tu te rends pas compte. Surtout, ne fais pas ça. David va le faire et à la fin, il va dire, mais j'ai péché contre toi, Seigneur. Le dernier péché de David, c'est un recensement. C'est compliqué de recenser des hommes. C'est compliqué. Et on ne recense pas des croyants comme on recense des pommes de terre ou du bétail. Voilà. Alors, le programme est basé sur un petit article. Oh, il se retrouve, hein, si vous allez sur Internet, vous retrouvez la revue qui a été publiée en 1931. Où Gabriel Lebras explique comment il imagine une sociologie de l'Église catholique française. Et dans cet article, il dit ceci. La pratique n'est pas toute la religion. La pratique ou l'abstention crée donc une simple présomption de foi ou d'incroyance. Une simple présomption de foi ou d'incroyance. Mais il me faut bien, tout en niant l'équation pratique égale croyance, constater que les consciences échappent à notre regard. Seuls des signes extérieurs nous permettent de supposer l'attachement au dogme et à la discipline de l'Église. Donc l'enquête qui va durer jusqu'aux années 70, avec cette fameuse échelle des pratiques, qui met en place les non-pratiquants, les intermittents, etc. 1931, vous voyez, c'est... elle est basée sur un principe de présomption de foi ou d'incroyance. On est rentré dans ce que Jacques Ellul appelle l'efficacité de la technique. Voilà. On va chercher des preuves qui existaient déjà plus ou moins, mais là, ça devient officiel, ça devient scientifique. Et donc, c'est là qu'une partie des chrétiens se découvrent non pratiquants, mes grands-parents. Alors, le top pour un laïc, c'est d'être dévot, c'est l'échelle numéro 5. Alors, les dévots, ils fréquentent assidûment l'Église, ils communient souvent et font partie d'associations pieuses. Donc là, on retrouve le triptyque pratique, fréquentation de l'Église et surtout communauté avec les associations de fidèles. Les autres, les pratiquants de base, ne participent pas à des associations de fidèles. Le critère du dévot, du bon pratiquant, c'est celui qui est dans une communauté organisée par l'Église d'encadrement. Action catholique, CVX, Équipe Notre-Dame, MCC, vous voyez, tous ces mouvements. Vous n'êtes pas une association de fidèles laïcs. Hein. Vous êtes un mouvement indépendant, attaché à une revue, et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est unique dans l'Église. Sachez-le, vous avez un trésor, c'est votre structure juridique. Aucun évêque, aucun pape ne peut vous imposer d'avoir un prêtre qui vient vous surveiller ou vous accompagner. Vous faites ce que vous voulez. Il y a la CCBF qui fait aussi, qui est comme ça. Mais vous, les amis de la vie, vous avez une structure juridique spécifique. Et les semaines sociales. Mais vous savez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, je suis allée voir, moi, le code de droit, le code de 1917, parce que c'est le code de 1917 en 31. On est Vatican II, c'est loin, hein. On n'y pense pas encore. Alors, c'est assez amusant de voir que, dans le code de droit canonique, le gros des articles, 300 et quelques, c'est pour les clercs. Un peu moins, 100 et quelques, c'est pour les religieux. Et puis, il y en a 43 pour les laïcs. Il y en a deux qui disent, attention, les laïcs, alors d'abord, ils ont le droit à recevoir le sacrement. Ils n'ont pas le droit de porter l'habit ecclésiastique. Et les 43 autres articles ne concernent que les associations de fidèles laïcs. Et la définition d'une association de fidèles laïcs, en 1917, c'est soit de développer une vie chrétienne plus parfaite entre les membres, soit d'assurer la pratique des œuvres de piété, de charité, etc. La vie plus parfaite. Ce n'est pas la vie parfaite, hein. On entend bien, hein, c'est un relatif. Hein. Plus parfaite. Donc on voit bien qu'ici, le profil, l'horizon du droit canonique de 1917 sur lequel se base cette enquête de sociologie des années 30, c'est bien le modèle monastique. Et le critère d'appartenance à une association de fidèles laïcs est prépondérant. Voilà. Alors, cette enquête, elle est toujours extrêmement passionnante, vraiment. Hein, je vous invite à aller vous renseigner, c'est absolument passionnant. Et les sociologues partent toujours aujourd'hui, en grande partie, de cette carte, de ces cartes établies par cette enquête, hein, qui reste toujours très, très intéressant. Hein. Attention. La sociologie est un outil indispensable, comme la philosophie, comme les sciences humaines, etc. Mais que nous dit cette échelle? C'est d'abord que le baptême n'a plus aucune valeur. D'abord, dans les enquêtes, les sacrements n'apparaissent pas. On va parler des étapes de la vie, on va parler de fréquenter l'Église, mais on ne parle pas explicitement des sacrements. On constate que toute la partie charité, engagement social est concentrée au sein des associations de fidèles laïcs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas membre de l'Action catholique, ce que vous faites à l'extérieur ne compte pas. Et donc, on voit se mettre en place, d'une manière assez étonnante, ce qu'on appelle la privatisation du croire. Vous voyez ? On ne peut pas dire que la société est responsable de tous les problèmes de l'Église. En acceptant ce type, et parce que c'est quand même les évêques qui ont passé commande, en acceptant ce type d'enquête, on a finalement concentré toute la vie des fidèles laïcs sur les associations de fidèles laïcs et l'Eucharistie. Tout le reste de la vie indépendante n'est plus comptabilisé sociologiquement. Attention, ça a changé. La sociologie a pris sa distance. Aujourd'hui, il y a des enquêtes de très grande qualité. Vous avez bien entendu, quand Jean-François Barbé-Bouvet nous fait son travail, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans cette sociologie quantitative. Mais le fait est que nous sommes baignés. Notre cerveau reptilien archaïque, il a ça dans la tête. Voilà. La recherche d'efficacité. Voilà. Ce que dit le pape en 1956 à Rome, le pape Pie XII dit voilà. On découvre dans l'Église de France, alors je ne retrouve pas, voilà, il dit, on salue les efforts de l'Église de France parce que grâce à la sociologie, elle cherche l'efficacité. Voilà. Une pastorale efficace. Alors, bien sûr, ça a donné un certain nombre de fruits, mais c'est problématique quand même. On voit avoir, à la suite de cette enquête, des recompositions territoriales. On va faire les découpages des paroisses, avec, de fait, exactement comme la société laïque le fait, un transfert de l'Église dans les villes, et puis la mise en place, dans les campagnes, il y a moins de choses. Alors, le problème, c'est que si on regarde dans l'Évangile ce qui se passe, eh bien, il y a très peu de disciples. Il faut faire des disciples, mais non. Jésus ne fait pas beaucoup de disciples. Vous avez des travaux comme ceux de John Paul Meyer, Elisabeth Strother Malbon, qui a travaillé sur toute cette nébuleuse autour de Jésus. Et si on se réserve, alors strictement au côté narratif, là on n'est pas dans l'exégèse historico-critique, si on regarde ce que racontent les évangiles, eh bien on voit que Jésus a finalement assez peu de disciples autour de lui et que la plupart des gens, il les renvoie. Après les multiplications des pains, c'est formidable, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, dans Matthieu, on nous dit, vous savez, avant la traversée là, de l'eau, Jésus les renvoie lui-même à l'eau. Mais oh Jésus, tu renvoies 5000 hommes. Maintenant, on va faire les JMJ pour rassembler. Et toi, tu les appelles pas pour être disciples, mais que fais-tu? Mais non, mais Jésus n'est pas venu constituer un groupe de disciples. Ça ne veut pas dire que les disciples n'ont pas une responsabilité. Mais c'est toujours problématique quand je dis Marie, la mère de Jésus, n'est pas disciple. Il n'y a pas de femme disciple. Ah, il y a des femmes qui suivent, qui sont extrêmement utiles. Mais qu'est-ce qu'on gagne à leur coller l'étiquette de disciple? Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'elles ne font pas un bon boulot sans pour autant être dans la catégorie stricte du disciple? Et qu'est-ce que gagnent les disciples? Est-ce que tout le monde doive devenir disciple? Vous savez bien, c'est une tautologie. Si tout le monde devient disciple, alors ça ne veut plus rien dire. Mais c'est une forme de responsabilité. Et puis, il y a quand même un autre problème. C'est que Jésus, à un moment, dit « Celui qui ne quitte pas sa mère, sa famille, n'est pas digne d'être mon disciple. » Mais alors Jésus, pourquoi tu renvoies le Géranésien que tu as guéri et qui pourtant veut te suivre? Tu lui dis non, non, rentre chez toi, va raconter ce qui t'est arrivé. Ah bon? Ça veut donc dire qu'il y a une autre manière de témoigner de la bonne nouvelle sans pour autant entrer dans le groupe des disciples. Mais ça sera compliqué pour les disciples. Chapitre 9 de Marc ou de Luc, vous avez à un moment donné Jean qui vient voir Jésus en lui disant, vous savez, ils se disputent pour savoir qui sera le plus grand, là, là, puis Jésus prend un enfant à un moment donné, tout ce passage, là, le chapitre 9 de Luc. Et là, il y a le Jean, il vient et puis il croit avoir fait quelque chose de bien. Il dit, tu sais, Jésus, on a vu des gars qui te guérissaient en ton nom, mais nous les en avons empêchés parce qu'ils ne sont pas dans notre groupe. Jésus lui dit, pauvre de toi. Pourquoi faire ça? Si ils ne sont pas contre vous, enfin, arrêtons. Donc on voit bien qu'au sein même du groupe des disciples, il y a déjà cette tentation de récupérer et de faire du groupe de disciples le cœur de la bonne nouvelle. Alors moi je rêve qu'un jour, ces jeunes qui viennent faire le mariage, se marier ou qui viennent faire le baptême, on leur dise, bah maintenant, va rentrer chez vous et qu'on ne vous revoie plus. Ce serait peut-être une bonne manière de leur donner envie de revenir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces gens qui sont partis? Eh bien, c'est cette fameuse foi qui sauve. Parce que la femme hémorroïse, celle qui vient toucher le manteau de Jésus par derrière, elle pose un geste magique. Aujourd'hui, on se moquerait d'elle à Lourdes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue parce que des copines lui ont parlé. Parce que la rumeur lui a dit, tu sais, ça, hein, c'est un gars, il faut aller le voir. Hein. Donc il y a eu des témoins avant. Ils n'ont pas attendu les apôtres et les disciples. Jésus, il est précédé par une rumeur et qui n'est pas institutionnelle. Donc cette femme, elle est venue par derrière, elle touche. Et Jésus subit, on le dit, une force sort de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, Jésus. C'est ta foi, c'est ces copines de village qui t'ont sauvé, qui t'ont donné le courage, qui t'ont donné le courage de venir, malgré tout. C'est ça la foi qui sauve. Et quand il dit « va, rentre chez toi », il lui dit « bah maintenant, fais pareil. Va raconter à tes copines ce que tu as vécu. Et ça sera bien suffisant. » Alors évidemment, on peut considérer que ces gens qui sont partis sont des disciples potentiels, qu'un jour Jésus les appellera. Eh bien non, ils ne sont pas appelés, et c'est très bien comme ça. Ils ont fait le boulot puisqu'ils sont dans l'Évangile. Donc on sait qu'ils ont raconté leur histoire. Mais sur le plan strictement narratif, ils ne sont pas devenus disciples. Marie, sur le plan strictement narratif, n'est pas une disciple de son fils, et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Elle est bien plus. Marthe et Marie, Jean le Baptiste, tous ces gens, ces personnages qui ne sont pas des disciples sont extrêmement importants. Mais ne faisons pas d'eux nécessairement des disciples. Par contre, comprenons bien ce qu'est la responsabilité du disciple. Vous voyez ? Donc je milite beaucoup pour la relativisation de ce vocabulaire « tous disciples ». Moi, j'avoue que « disciple missionnaire », vous voyez, ça me... Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il y a cette fameuse question de la foi qui sauve. Alors, depuis le début du XXe siècle, voilà, vous savez, il y a eu un gros travail sur l'anthropologie, sur la notion de l'expérience. Hein. C'était impensable hein, de penser la foi en termes d'expérience. Ça a été une des grosses crises. Un des gros problèmes de la crise moderniste, hein, entre les évêques et les chercheurs. Non, on ne peut pas faire l'expérience de Dieu si le magistère n'est pas passé par là. Ça n'est pas possible. La foi d'un laïc, hein, j'entends, parce que le sacrement de l'ordre et la vie religieuse font un truc bizarre, ça change. Mais la foi d'un pauvre laïc, c'est ça. Hein. Et donc on va attendre que le catéchisme arrive et remplisse le verre. Et la foi jusqu'au Vatican, quand même, hein, c'est du contenu. C'est ce que dit l'enquête, c'est l'obéissance au dogme. Vous voyez ? C'est du contenu. Et moi, mon père, mais sans doute certains d'entre vous, hein, se rappellent des définitions qu'on devait apprendre par cœur. C'était ça, avoir la foi. Mais ce n'est pas idiot, hein, attention. Parce que quand on fait de la théologie... On sait qu'on a les outils pour penser. Et c'était une forme de petite théologie, le catéchisme. Hein. Je ne critique pas, hein, parce que nous sommes héritiers de ça. Mais il y a des penseurs, alors, des gens comme Théobald, Karl Rahner, toute cette trame-là, dit mais non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Pierangelo Sequeri, ce sont des théologiens qui sont en ce moment au synode, au Vatican. Que dit Sequeri ? Il dit, mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. D'abord, il y a la foi qui sauve. Il y a la conscience croyante, c'est ce courage de vivre. Ça, c'est le socle. C'est l'arbre, c'est les racines de la vie. Et la foi attestataire, fiduciaire, le credo, elle va venir après se greffer sur cette foi. Il parle d'une greffe. Mais sans ce socle de foi basique, de la foi dans la vie, ce courage de vivre, il ne peut pas y avoir autre chose. Ou alors, on ne parle pas de foi dans ces cas-là. On parle d'autre chose. Et donc, il va falloir une médiation. Il va falloir les passeurs, le vocabulaire de la pastorale d'engendrement. Il va falloir qu'à un moment donné, cette femme qui a rencontré, qui a eu les copines qui lui ont dit « mais va voir avec lui, tu verras, ça peut s'arranger », il va falloir à un moment donné qu'elle fasse une rencontre, là en l'occurrence c'est Jésus, mais il faudra qu'elle passe à travers la foule, notamment des disciples, pour qu'après elle dise « moi c'est ma foi, j'ai vu Jésus, maintenant c'est ma foi, c'est ma foi de première main ». Et donc on a cette structure de la foi qui passe d'abord donc, d'une conscience croyante. Et c'est pour ça que c'est très, 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 très important de susciter et d'honorer la confiance des personnes. C'est vraiment ce qui se joue dans les rites, ce que nous disait Emmanuel Ringlet. Ça, c'est la base. Jésus ne fait que ça, rencontrer ces gens. Et son job de messie, de médiateur, en grande partie, c'est d'attester ça. Il est témoin de ça. Va, ta foi t'a sauvé. Il ne lui dit pas qui t'a raconté, il ne donne pas de demande. Va, ta foi t'a sauvé. C'est quand même étonnant, Pourtant, on dit que c'est lui le sauveur. Mais qu'est-ce qu'il sauve, là ? Il sauve la foi de cette femme. Il lui dit, je constate que tu as la foi. Et ça, ça te sauve. Voilà. Donc, notre problème à nous, c'est d'arriver à penser notre qualité de fidèle, laïque, en essayant de sortir de l'impasse du tous disciples. Voilà. Et de se dire, de prendre conscience que le royaume de Dieu, ça n'est pas un royaume de disciples. Voilà. Et du coup, ça nous aide à nous positionner par rapport à l'institution, et ça nous aide à comprendre que finalement, Jésus... Et je pense que théologiquement, c'est intéressant de repérer que Jésus renvoie la plupart des gens chez eux pour être des sédentaires. Voilà. Ça change la vie, quand on fait de l'accueil en pastoral. On n'est pas là pour faire de chiffres. Pourtant, et j'aime beaucoup le pape François, pourtant l'Eucharistie et la non-pratique restent un problème d'ordre moral. Alors, je peux vous dire que ça m'a fait mal. Et le jour où j'ai expliqué ça à Christophe Théobald, on travaille ensemble, il m'a dit « Oui, mais c'est dans le cadre de la foi populaire. » Oui, mais quand même. Dans Evangelii Gaudium, voilà ce qu'il dit au numéro, je crois, 69. Chaque culture, écoutez bien, et vous êtes assis, ça tombe bien. Chaque culture et chaque groupe social a besoin de purification et de maturation. Chaque culture, chaque groupe social. Dans le cas de culture populaire, de population catholique, donc là on est dans le catholicisme dit populaire, nous pouvons reconnaître certaines faiblesses qui doivent être guéries par l'Évangile. Les faiblesses qui doivent être guéries par l'Évangile. Le machisme, l'alcoolisme, la violence conjugale domestique, une faible participation à l'Eucharistie, les croyances fatalistes ou superstitieuses qui font recours à la sorcellerie. Pape François, Evangelii Gaudium. Bien, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Voilà. Voilà. Alors, on comprend bien que à partir du moment où on considère qu'il faut protéger les sacrements, on ne peut pas les donner à n'importe qui, on met en place ce que je pense être une théologie athée. C'est-à-dire qu'on affirme que Dieu n'y est pour rien. Et que si il faut prouver qu'on mérite le baptême, qu'on doit donner des preuves de sa fructification en termes d'Eucharistie ou autre, alors on laisse entendre qu'on est dans un examen, un permis de conduire, mais qu'on n'est pas dans un sacrement, c'est-à-dire dans une relation avec Dieu et qui lui fait le boulot aussi. On évacue dans ces cas-là l'Esprit-Saint, Dieu, et on fait des sacrements des espèces de poches vides. Donc c'est problématique, je crois, vraiment, de refuser des sacrements, quand bien même les personnes ne savent pas dire. Et du coup, une des pistes qui est essentielle en pastorale, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est de les écouter, ce que fait Gabriel Ringlet dans sa gestion des rites. Mais ce que nous faisons toujours, c'est « raconte-moi, que veux-tu que je fasse pour toi ? Raconte-moi en quoi tu crois. Dis-moi ce qui te donne le courage de vivre. » Voilà. Ça, c'est vraiment la structure de la pastorale d'engendrement. Et effectivement, on peut considérer que nous avons pensé une église en « où ». Il y a d'un côté les diacres, les moines, les religieux, et puis d'un côté les laïcs. Tout ça, c'est séparé. C'est l'un ou l'autre. Mais quand on regarde dans l'évangile, autour de Jésus, c'est toujours en « et ». Jésus, il est entouré des disciples, des apôtres, de la foule, des femmes, des ennemis. Tout ça, ça tourne autour de lui. Voilà. Et je pense qu'il faut penser la foi et l'Église en termes de « et », d'inclusion. Voilà. Alors, je ne prends pas un vocabulaire féministe, hein, mais vous voyez bien que il faut sortir de ces schémas. Et alors, pour moi, la grande découverte, c'est que finalement, le décret de Gratien a bien raison. Parce que, et ça sera ma conclusion, j'aime beaucoup le Concile Vatican II. C'est lui qui dit dans Lumen Gentium, l'Église, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Mais non, mais Sacrosanctum ne dit pas ça. La Constitution sur la liturgie. La Constitution sur la liturgie dit c'est la liturgie qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. Les rites. L'Eucharistie étant un point culminant. Mais voyez bien, au sein du Concile, il y a deux versions différentes de ce qu'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Ils ne disent pas la même chose. Et puis le Concile Vatican II a voulu bien faire, alors il a maintenu la différence du décret de Gratien. Les laïcs ne sont ni des clercs ni des religieux. Après, il essaye de récupérer, mais quand même, c'est des collaborateurs, on en a besoin, etc. Ben oui, évidemment, c'est nous qui faisons tourner la boutique. Bon, donc il a fallu faire quelque chose. Mais en même temps, ils ont dit, ouais, mais alors quand même, dans Sacrosanctum Concilium, quand même, il faudrait que les laïcs ils puissent accéder à la vie parfaite. Donc, on a demandé à Vatican II que les laïcs prient la liturgie des heures. Alors, ce n'est pas un cadeau qu'on a fait aux religieux, hein, parce que c'était leur spécialité quand même. Et qui d'entre nous, alors peut-être que quand on est retraité, mais qui d'entre nous sérieusement peut vivre la liturgie des heures en ayant une vie de famille, hein, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi joue-t-on ? Et à quoi joue-t-on avec les religieux ? Si nous aussi, nous devons être comme les religieux, alors arrêtons. Ce n'est pas la peine de devenir religieux si on fait pareil qu'eux. Et je pense qu'il faut revenir à cette distinction de Gratien en disant, bien nous, les laïcs, nous n'avons pas à être des prêtres. Et moi, je ne milite pas pour que le diaconat soit étendu aux femmes, ni le presbytérat. Moi, je milite pour qu'il n'y ait plus de sacrement de l'ordre, ni de sacrement du mariage. Et que nous revenions au modèle monastique, paradoxalement. Parce que qui d'entre nous ici dira que les vœux des religieux valent moins que l'ordination d'un prêtre ou que notre mariage ? Or, les vœux religieux ne sont pas d'un sacrement. On est d'accord, hein ? Et pourtant, est-ce qu'eux ne nous montrent pas la voie? Et les communautés religieuses féminines, est-ce qu'elles ne nous montrent pas aussi quelque chose d'important? C'est qu'elles n'ont pas de prêtre à leur tête. Elles ne peuvent pas. Alors qu'une communauté religieuse masculine est obligée d'avoir un prêtre. Parce que les autres prêtres, sauf exception de Rome, exception, mais parce que les autres prêtres n'accepteraient pas d'obéir à un laïc, à un simple frère. Il y a quelques exceptions sur autorisation du Vatican pour que ce soit de simples frères qui soient supérieurs de communauté. Donc il me semble qu'il y a des bons et des mauvais combats et que les sept sacrements, ça marche, c'est bien, mais ça pose problème. Et ce qui pose aussi problème, c'est que l'Eucharistie soit devenue la source et le sommet de la vie chrétienne. Parce que c'est ce que nous avons expérimenté avec le Covid, c'est que sans prêtre, pas de sacrement. Mais le sacrement de l'Eucharistie est le seul sacrement qui se passe de nous. On ne peut pas baptiser sans un baptisé, on ne peut pas ordonner sans un diacre, on ne peut pas marier sans que les mariés soient là. Mais nous avons revu que la théologie du Moyen-Âge n'a pas changé. Un prêtre tout seul peut célébrer l'Eucharistie et elle est valide. Et qu'une communauté virtuelle suffit, parce que le prêtre nous représente. Et donc, la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est le sacrement de l'ordre. De l'ordre. Sans prêtre. Alors bien sûr, si vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, je suis avec vous, mais quand même, c'est mieux s'il y a un curé. C'est la vérité juridique. Voilà. Je vous remercie.
Merci. Ils sont très troublés. Merci beaucoup Valérie. Je pense qu'on a matière à discuter. On est peut-être un peu troublé. Et alors pour que les choses décantent, on va faire 2 minutes de silence.